Avec l'émergence des processeurs 32 bits sur nos ordinateurs et consoles, et vu le succès rencontré par des logiciels comme Toshinden sur PlayStation, l'accès à la troisième dimension s'est imposé comme une nécessité absolue pour les éditeurs de jeux vidéo. Dans un domaine comme celui du shoot'em up, les atouts de cette nouvelle génération se manifestent. Dans un logiciel comme Parodius, vous êtes forcé de suivre la cadence imposée par le scrolling horizontal. C'est ça l'inconvénient de la 2D. Passons maintenant à la 3D avec Terminal Velocity. Ici, vous êtes totalement immergé dans l'action avec une totale liberté de mouvement. Un jeu 3D est non seulement plus réaliste dans ses mouvements, mais aussi dans ses graphismes. Ici, tous les objets présents dans le logiciel bénéficient d'algorithmes de Gouraud, du nom d'un mathématicien. Ces algorithmes sont des bouts de programme calculant l'orientation d'un objet par rapport à une source de lumière donnée. Les faces de l'objet en prise directe avec cette source lumineuse sont éclairées et les autres sont assombries. Grâce au Gouraud, l'impression de perspective est renforcée. Dans certains cas, les auteurs de jeux utilisent des astuces plus ou moins efficaces pour donner une impression de 3D avec des techniques 2D. Ainsi, la fausse perspective dite 3D isométrique, utilisée depuis le Moyen-Âge dans l'architecture, c'est notamment le cas de SimCity 2000. Même le célèbre Tetris a lui aussi été touché par le phénomène 3D. Blockout, son pendant tridimensionnel, ne fait pourtant pas étalage de grandes prouesses techniques. Les traditionnelles formes géométriques que l'on manipule sont en 3D vectorielles, familièrement appelées fils de fer. Elles passent en 3D face pleine lorsqu'elles atteignent le fond. Ici, il n'y a pas d'ombrage ou de lissage. Les Lemmings, grand hit de Psygnosis, reviennent dans une version 3D. Les décors et ses éléments, tels que les maisons, murs et blocs, sont bien des objets 3D mappés, c'est-à-dire sur lesquels ont été appliquées des textures, sauf pour les héros. Ici, Psygnosis a opté pour des sprites, les personnages sont dessinés à plat et votre machine se charge de faire un zoom lorsque vous vous en approchez. Terminons avec un soft, ayant complètement mené à terme sa transformation, Flashback. Fade to Black, du même éditeur, rompt totalement avec la présentation en deux dimensions de son prédécesseur. Les décors sont composés d'objets sur lesquels ont été appliquées des textures, donnant l'illusion de relief. Les personnages du jeu ont eux aussi bénéficié du même traitement. Le passage de Flashback à Fade to Black est un bon symbole de l'évolution actuelle des jeux. Aujourd'hui, grâce à MechWarrior 2, je me suis transformé pour vous en cyber-Goldorak le 31e siècle. Dans ce futur lointain, en 3057 plus précisément, la guerre fait rage sur un monde désolé. Les belligérants, assoiffés de pouvoir, se livrent à une lutte sans merci. Les affrontements sont constants et les cessez-le-feu inexistants. Tel un Actarus ou un Alcor des temps modernes, vous piloterez votre engin comme un vulgaire simulateur de vol. Sauf qu'ici, on ne vole pas. On court à près de 100 miles par heure. Ça fait en gros 180 km par heure. Pas mal pour des robots dont le poids varie entre 20 et 100 tonnes selon le modèle choisi parmi les 15 à disposition. Depuis votre cockpit, vous aurez une vue imprenable, mais vous n'aurez pas tellement le temps d'admirer le paysage en 3D, car très vite, la charmante voix de votre ordinateur de bord vous avertira de la présence d'éléments hostiles, fort semblables à votre machine de guerre. Alors ne vous torturez pas les neurones, ouvrez l'œil et appuyez sur la gâchette pour libérer vos lasers et autres missiles avides de ferraille. Car vous l'aurez compris, ici on ne fait pas dans la dentelle. Après avoir suivi un entraînement poussé auprès de vos instructeurs, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, se résumera à détruire des objectifs stratégiques et à casser du robot. Une autre option vous permettra de choisir un camp allié et une fois débarqué, vous n'aurez plus qu'à attendre que les méchants arrivent et à les tirer comme des lapins. Cette option prend tout son intérêt si vous jouez en réseau. Et puis, ce qu'il y a de bien dans MechWarrior 2, outre sa qualité graphique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un maniaque joystick pour s'amuser. Vous aurez accès dans les configurations à un mode invulnérabilité qui vous assurera une partie de chasse des plus déloyales certes, mais néanmoins fort distrayante. On prend même un vilain plaisir à démembrer les robots adverses avant de les achever. Pour un pilote de MechWarrior, la guerre est la vie et la mort est la seule véritable paix. L'unique condition pour pouvoir accéder au mythe MechWarrior, avoir une machine puissante, genre Otium. Dictionnaire sur CD-ROM, déjà, ça tient moins de place qu'en papier. Le dictionnaire Hachette Multimédia vous propose une promenade à travers 80 000 articles accompagnés pour certaines images de sons et d'animations. Vous pouvez utiliser l'ordre alphabétique, effectuer des recherches par mots-clés ou mieux, cliquer sur n'importe quel mot présent à l'écran pour accéder à sa définition. On appelle ça de l'hypertexte et ça permet de faire d'amusantes promenades au fil de votre inspiration. Un simple clic et vous découvrez les cris du loup jusqu'au cri de toute une basse-cour. Les mélomanes préféreront écouter différents types de flûtes, de la flûte traversière à la flûte de pan, en passant par la flûte énervante de votre petite sœur. Pitié, assez! Comme d'habitude, la partie cartographique est une déception dans ce genre de soft. Il y en a 300, mais elles ne feront pas oublier un bon atlas en papier et même un mauvais. Le dictionnaire contient également des tableaux qui vous permettront par exemple d'obtenir la liste des prix Nobel ou le palmarès du Festival de Cannes depuis ses débuts. Vous aurez droit aussi pour certains sujets à des diaporamas très instructifs. D'accord, on a parfois l'impression d'assister à une de ces terribles soirées diapo où des amis vous font subir les photos de leurs vacances. D'autant que le ton du narrateur est plutôt soporifique. Même en multimédia, il faut parfois souffrir pour s'instruire. Certains diaporamas sont quand même intéressants. Et après les avoir vus une première fois, vous pourrez les parcourir à votre rythme, en vous arrêtant pour cliquer sur un des mots-clé. Point qui nous venge de l'arrogance de Microsoft. Si on trouve la guerre des étoiles, en revanche, Harrison Ford n'a pas droit à une petite définition. Alors que notre Depardieu national, si, bien fait. De photos en extraits musicaux, d'animations en séquences vidéo, on passe allègrement de Gandhi au frein à disque avec une curiosité sans limite. Heureusement, le programme mémorise toutes les étapes de votre balade et vous permet de revenir rapidement sur n'importe quel sujet. Puisqu'il s'agit d'un dictionnaire et pas d'une encyclopédie, les définitions sont souvent succinctes et toutes ne sont pas accompagnées d'éléments audiovisuels. Le problème principal est simple. Hachette propose un excellent dictionnaire en papier, bien meilleur et trois fois moins cher. Bienvenue, cher maître. Bienvenue au Grand Palais de Paris, où se déroule votre rétrospective. Et bienvenue sur les micros. Abondance de bien ne nuit pas. Ce premier titre est plutôt technique. On y découvre la belle collection des Cézanne du musée d'Orsay en se promenant dans des salles virtuelles. On choisit un tableau et on en parcourt librement les détails, tel cet autoportrait daté de 1877 dont on peut explorer les moindres touches de pinceau et même le grain de la toile. Ou encore les fameux joueurs de cartes 1890, la plus célèbre des œuvres de Cézanne comme vous ne l'avez jamais vue. Mais où est l'artiste lui-même? Le second CD, Moi, Paul Cézanne, conçu avec la Réunion des musées nationaux, choisit, lui, de nous plonger dans la vie et dans les lieux du peintre. Tel ce bistrot, vous retrouvez nos très beaux joueurs de cartes qui sont ici mis en situation. Ou prendre le train pour descendre en Provence et comparer les innombrables paysages de la montagne Sainte-Victoire sous tous ces éclairages inlassablement traqués par Cézanne. Même l'atelier nous est ouvert. Où se sont virtuellement ébauchés ces marronniers et cette ferme, près du Jacques Beaufant, maison de la mère du peintre. Nous sommes presque chez nous, d'un glissement de souris, passons par-dessus le toit et allons découvrir un coin de ciel. D'ailleurs, écoutons Cézanne lui-même, toujours insatisfait.
J'ai cherché le tableau. J'ai cherché ce que je laisserai derrière moi et j'ai échoué.
Ah, voilà du multimédia vrai, senti, vivant. Un troisième voyage au pays du primitif d'un art nouveau. Ce CD s'appelle Cézanne, tout simplement. Il nous propose deux itinéraires, l'un aléatoire, balade hasardeuse et fragmenté au fil du CD. l'autre rationnel, une vie, une œuvre, organisée sur une carte et un écran. Le programme combine habilement des explications très claires et visuelles sur la technique du peintre, ici les lignes de force de la Maison du Pendu de 1873. On peut aussi assister aux phases de la naissance, fictive mais bien reconstituée, de cette nature morte à l'amour en plâtre de 1895. Mais jamais l'homme lui-même n'est oublié. Certes, un peu caricaturé, à travers une série d'adjectifs, sale par exemple.
Le gars n'est pas assez peintre, il n'a pas assez de couilles.
Mais le personnage n'était pas vraiment tendre avec ses contemporains. Enfin, un petit coup d'œil à l'index. Les œuvres s'affichent dès que la souris passe sur leur titre. C'est rare et très pratique. Bravo. Alors, adieu? Non, le pré-post impressionniste le plus contesté du 19e est aujourd'hui vivant et partout. Le papy des jeux de rôle revient pour le plaisir de tous les vieux de la vieille. Dungeon Master 2. Sorti sur Atari ST il y a 7 ans, Dungeon Master premier du nom fut une véritable bombe. C'était en effet la première fois qu'un jeu de rôle utilisait une vue subjective en 3D. Barbare, voleur, magicien, le joueur pouvait enfin voir ce que ses personnages voyaient, vivre ce que ses personnages vivaient. Le réalisme était si poussé qu'il n'était pas rare de sursauter quand un monstre surgissait au détour d'un couloir. On retrouve dans The Legend of Skullskeep tous les ingrédients qui ont fait le succès de son prédécesseur. Le scénario narre une nouvelle fois l'éternelle lutte d'une équipe d'aventuriers au grand cœur contre les forces du mal. Il faut cette fois activer un puissant artefact pour détruire le terrible Dargoth. Exploration, réflexion, action, le déroulement du jeu ne laisse aucun répit et les lieux de repos, comme l'inévitable taverne ou l'indispensable armurerie, se feront de plus en plus rares. La grande nouveauté de l'affaire réside dans les extérieurs où, en plus de monstres, les champions du bien devront également braver les affres de mère nature. Armes blanches, magie noire, tous les moyens sont bons pour vaincre des créatures toutes plus puissantes les unes que les autres. On ne sait jamais d'où viendra le danger. Bref, couloirs, monstres, trésors, le jeu idéal pour les gobelins. Archi-classique, un tel scénario peut après tout procurer de longues heures de plaisir. Mais à l'heure du multimédia et de la full motion video, la Doom génération était en droit d'attendre autre chose que des graphismes simples et des animations sommaires. Face au Ultima Underworld et autres Land of Lore, Dungeon Master 2 est un peu rustique. Et on se demande pourquoi les auteurs ne lui ont pas fait subir un vrai lifting. C'est plutôt Dungeon Master 1 bis. CD-ROM qui le présente soit un des plus grands succès de tous les CD-ROM culturels. C'est un titre simple à utiliser, mais très riche, avec plein de petites astuces. À l'entrée de chaque galerie, par exemple, on entend un concert d'époque et on prendra le tableau le plus banal pour le redécouvrir sur son PC. Matisse, Aragon, Prokofiev sur PC CD-ROM et Mac CD-ROM. L'éditeur Arborescence a lancé une collection qui confronte un peintre, un écrivain et un compositeur. J'aime ce voyage avec Aragon, Matisse et Prokofiev, même si les poèmes font un peu réciter comme à l'école. Et je frissonne toujours avec ce bon vieux Pierre et le Loup.
Ah, parce qu'il n'atteint pas cet absolu que celui qui aime vraiment peut concevoir comme la seule vraie marque de l'amour.
Schubert sur PC CD-ROM de Microsoft. Schubert de Microsoft, si le réfractaire comprend l'anglais. À quand la traduction ? on décortique la truite en compagnie d'un expert musicologue, Barbara Hendrix, sur mon PC, sans photo malheureusement. Mais ma grand-mère a trouvé délicieux le très joli mémorial final. Les évangiles de Aimé sur PCC des ROM. Les textes chrétiens ont presque 2000 ans. Les voici sur un CD-ROM très bien réalisé. On peut s'en servir comme d'un document multimédia avec chants et images, mais aussi pour découvrir la lecture synoptique, c'est-à-dire la comparaison des textes des quatre évangiles. Attention, ne pas se fier aux apparences. Certes, on dirait un titre multimédia à la gloire de Jean Alesi ou de Michael Schumacher. On pense vitesse, trip, réflexe et risque mortel, mais grave erreur. Pit Stop, comme son nom l'indique en anglais, arrêt au stand, était un jeu stratégique. Regardez sur l'écran l'indication Fuel. Admirez à droite le schéma de la voiture donnant l'usure des pneus. Avec son écran partagé et la possibilité de jouer à deux, Pit Stop, comme d'autres jeux Epix, une extraordinaire boîte canadienne, avait 10 ans d'avance. Bon d'accord, pas pour les graphismes.